Bonjour. Plus de masques et plus de lits en réanimation. La promesse du gouvernement hier soir face au coronavirus qui a déjà tué plus de 2300 personnes en France. Opération transparence de l'exécutif qui annonce également la multiplication de tests de dépistage. On le verra. Exercice de plus de 2 heures. Édouard Philippe et son ministre de la Santé Olivier Véran, mais qui, sans surprise, n'a pas convaincu l'opposition. C'est raté pour l'unité. De son côté, le Conseil d'État refuse de généraliser la prescription de chloroquine, la plus haute juridiction administrative saisie par un collectif de soignants. La menace des routiers, 3 syndicats appellent à exercer leur droit de retrait à partir de demain pour protester contre les conditions de travail des routiers. Pas assez de sécurité, manque d'hygiène et peu de services pour eux sur les routes, disent-ils. Coronavirus et économie, on en parle à 8h20 avec votre invité Eric.
Effectivement, un économiste, Gaël Giraud, il est directeur de recherche au CNRS et donc question ce matin sur les enseignements économiques à tirer de cette crise qui n'est pas finie. Eh bien, posez vos questions ce matin à Gaël Giraud. Le standard est ouvert, c'est au 01 45 24 7000.
Dans ce journal également, Donald Trump qui renonce finalement à placer l'État New York en quarantaine. En France, l'arrivée des pollens et des personnes allergiques qui redoutent d'avoir contracté le coronavirus car les symptômes se ressemblent. Et puis l'une des grandes gagnantes du confinement, c'est la télé. Plus si ringarde que ça, y compris chez les jeunes.
France Inter.
D'abord de la fermeté, le combat ne fait que commencer, puis de la pédagogie face à l'épidémie de coronavirus. Le Premier ministre Édouard Philippe, son ministre de la Santé Olivier Véran, conférence de presse de plus de 2 heures hier soir, des annonces, plus 1 milliard de masques commandés, notamment à la Chine, plus de lits en réanimation, l'objectif est de dépasser les 14 000, il y en avait 5 000 au début de la crise. Autre ambition, multiplier les tests de dépistage, notamment à l'approche de la fin du confinement, car la France, Véronique Julia, manque cruellement de tests.
Tester, 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 recommandait l'OMS il y a quelques jours. Sauf qu'avec 5000 tests quotidiens il y a une semaine et seulement 10 à 12 000 tests quotidiens ces derniers jours, la capacité de dépistage en France est restée modeste. Cette capacité va être considérablement augmentée. Il y aura 30 000 tests par jour d'ici une grosse semaine, puis 50 000 par jour à la fin avril. On parle ici des tests PCR qui nécessitent des machines de lecture à haut débit. Parallèlement, on va multiplier les tests rapides, des tests très faciles d'usage et dont le résultat peut se lire en quelques minutes. Ces tests arrivent sur le marché, produits dans différents pays, mais la France veut d'abord les valider, ce qui prend un peu de temps. Elle en a malgré tout commandé déjà 5 millions, ils arriveront bientôt. On devrait ainsi disposer de plus de 100 000 tests rapides par jour au mois de juin. Avec ces deux types de tests, auxquels vont s'ajouter bientôt les tests dits sérologiques, la France prépare déjà la levée du confinement. Quand les Français vont ressortir de chez eux, il faudra massivement vérifier qu'ils ne sont pas malades et isoler ceux qui le sont. C'est le rôle des tests PCR et rapides. Il faudra mesurer aussi combien d'entre eux ont été en contact et sont immunisés contre le virus. Et ça, c'est le rôle des tests sérologiques qui détectent la présence d'anticorps dans les prises de sang.
Oui, tandis que les tests PCR repèrent la présence du code génétique du virus dans l'organisme. Commande massive, on le voit, de tests et de masques. Le gouvernement promet aussi d'accélérer la production française de masques. Des entreprises comme Vuitton, Armor Lusque s'y sont mises. Mais ce n'est pas assez pour Patrick Peloux, d'où cet appel de l'urgentiste président de l'Association des médecins hospitaliers en France.
Que les industriels prennent l'exemple sur L'Oréal, par exemple, qui a changé ses chaînes de fabrication pour faire du gel hydroalcoolique et fabriquons des masques. On n'a plus de tenue de protection, fabriquons des tenues de protection. Nous n'avons plus de respirateurs. Bon sang de bonsoir, mais changeons les chaînes industrielles et fabriquons des respirateurs. En période de guerre, les Français, ils sont héroïques, d'accord, ils sont vaillants et courageux. Il suffit juste qu'on leur demande et on va trouver des solutions.
Voilà le coup de gueule de Patrick Peloux avec Olivier Delagarde. 500 000 masques sont également déstockés à destination des EHPAD où le gouvernement suggère l'isolement de chaque résident dans sa chambre, même pour les repas, et promet dès le début de la semaine un bilan de la mortalité dans ces établissements pour personnes âgées dépendantes. Hier soir, le bilan national était de 2314 morts dans les hôpitaux et plus de 4000 personnes en réanimation.
Et concernant l'usage de la controversée hydroxychloroquine, eh bien, pas de changement de la part du gouvernement.
Elle n'est autorisée que dans un cadre strictement réglementé. Un collectif de soignants avait d'ailleurs saisi le Conseil d'État pour demander la possibilité de la prescrire plus largement. Eh bien, hier soir, la plus haute juridiction administrative a dit non pour l'instant, Sophie Parmentier.
Le Conseil d'État estime que l'hydroxychloroquine, qui soigne d'ordinaire la polyarthrite rhumatoïde, n'a pas encore prouvé son efficacité efficacité dans le traitement du Covid-19. Pas assez en tout cas pour autoriser tous les médecins de ville à la prescrire. Les dernières études réalisées après administration de chloroquine sur des patients souffrant du coronavirus, l'étude marseillaise du professeur Raoult ou encore de récentes études chinoises ne sont pas assez fiables aux yeux du Conseil d'État. Pour les juges, il n'y a pas eu assez de patients analysés à Marseille, seulement une vingtaine. Il n'y a surtout pas eu d'analyse parallèle avec un groupe témoin, regrettent les magistrats. Le Conseil d'État préconise donc d'attendre les résultats de l'essai clinique européen Discovery mené sur 3000 patients pour savoir si la chloroquine peut vraiment faire des miracles pour les malades du Covid-19. Mais cet essai clinique ne rendra son verdict que dans une dizaine de jours. Du temps perdu, regrettent les soignants qui avaient saisi le Conseil d'État en urgence et promettent de nouvelles actions judiciaires.
Sophie Parmentier, décision des magistrats tombée pendant la conférence de presse d'Edouard Philippe et Olivier Véran. Une conférence de presse avec deux buts, afficher clarté, franchise et évidemment scruter à la loupe par l'opposition. Alors, le gouvernement a-t-il convaincu? Sûrement pas, Karine Bécard.
Les efforts de transparence du gouvernement n'ont visiblement pas été suffisants. En tout cas, ni pour la droite, ni pour la gauche. Aucun des deux camps n'y a vu un exercice de clarification, non au mieux, ils estiment avoir assisté à une opération de justification. Seul bon point accordé par le député insoumis Alexis Corbière, le début, mais bien trop timide à son goût, d'une planification sanitaire.
Ils annoncent une planification désormais, c'est-à-dire que bon, ok, on va produire du masque, on va en faire venir, on va se donner les moyens, tout ça reste flou, il n'y a pas d'annonce vraiment de réquisition d'entreprise pour les fabriquer, on sait que des choses ici ou là sont faites et tout, mais enfin, il y a une direction qui est prise, qui dit, voilà, maintenant on prend des décisions, ce qui est heureux.
En réalité, cette direction, la droite, elle, considère qu'elle ne la voit même pas. Fabien Di Filippo, député LR de Moselle, dans un grand test qui souffre depuis maintenant 3 semaines, se montre extrêmement sévère.
Quand je vois que depuis le début du confinement, la ligne a changé 3 fois, je me pose quand même un certain nombre de questions. Eh bien, il faut que cette ligne, elle soit claire et qu'elle soit suivie et de manière massive.
Donc, pour l'unité, c'est une fois de plus raté. Mais avec ces graphiques et les explications apportées par des scientifiques, le Premier ministre espère surtout avoir été clair et avoir convaincu les Français parce que les escarmouches à l'Assemblée, elles, devraient a priori continuer.
Et puis, cette autre annonce du gouvernement, alors que les Français sont confinés au moins jusqu'au 15 avril, dans un entretien au journal Le Parisien aujourd'hui, Marlène Schiappa, secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, promet l'installation de points d'accompagnement dans des centres commerciaux pour les femmes victimes de violences conjugales.
Et sur le terrain, les évacuations sanitaires de malades s'accélèrent.
36 patients du Grand Est vont être transférés à bord de 2 TGV médicalisés vers des hôpitaux de Nouvelle-Aquitaine. Aujourd'hui, plusieurs vols vont également permettre de transporter des malades depuis la Franche-Comté vers la région Auvergne-Rhône-Alpes. À Paris, pas de transfert pour le moment, mais dans les hôpitaux, les cas graves de coronavirus sont en nette augmentation. À la Riboisière, par exemple, on est proche de la saturation, 50 lits en réanimation, tous occupés après l'arrivée de 3 malades hier. Élise Muller y est aide-soignante.
Depuis le début, on constate que les entrées, elles arrivent vite. Il faut être hyper réactif parce que les malades se dégradent assez vite. Donc ça génère pas mal de stress.
Ça représente quoi, 3 patients en une journée admis dans un service comme le vôtre? C'est beaucoup, c'est pas beaucoup?
C'est énorme parce qu'une entrée, 1,5 patient demande beaucoup d'attention. Il y a beaucoup de travail qui est fait sur chaque entrée. Chaque patient qui arrive, on le technique, on fait beaucoup d'examens.
Vous diriez là aujourd'hui que vous la sentez vraiment, cette, ce qu'on appelle la vague?
On sent que plus les jours passent et plus l'ambiance, l'atmosphère se tend. Mais on est relativement bien organisé, je pense. Et pour le moment, on gère comme on peut. Pour l'instant, je pense qu'on gère bien.
Des propos recueillis par Étienne Monin. Eux sont indispensables au ravitaillement des magasins. Les routiers ne peuvent évidemment pas rester chez eux et télétravailler. Mais ils menacent d'exercer leur droit de retrait à partir de demain à l'appel des syndicats CFDT, Force ouvrière et CFTC. Pas ou peu de protection, manque d'hygiène sur les routes, restaurants fermés. Ils sont à bout. Thierry Douin de la CFTC le dit à Philippe Lefebvre.
La sécurité sanitaire des salariés aujourd'hui n'est pas du tout assurée. Ce que l'on demande depuis 10 jours, c'est en même temps qu'on protège ses salariés, qu'on leur donne une certaine dignité aussi, c'est-à-dire que sur les routes, on puisse réquisitionner des restaurants pour qu'ils puissent s'alimenter correctement, se laver correctement. Concrètement, si à partir de lundi, les salariés se sentent en danger, c'est-à-dire pas de masque, pas de gel hydroalcoolique, pas de gants, pas de moyens d'hygiène propres, pas moyen de s'alimenter normalement, on demandera aux salariés de faire un droit de retrait individuel vis-à-vis de leur entreprise. Et on les couvrira sur ce droit de retrait, c'est-à-dire qu'ils arrêteront de travailler.
Et en Espagne, on en parlait hier, les routiers peuvent désormais bénéficier de davantage de services, notamment sur les aires d'autoroute.
Oui, l'Espagne qui annonce le gel des activités économiques non essentielles.
Dès demain, tous les salariés de ce secteur doivent rester chez eux. Un conseil des ministres extraordinaire doit valider sa décision aujourd'hui. Plus de 800 morts hier en Espagne, 889 en Italie. Mais les États-Unis sont devenus le pays le plus touché au monde, plus de 120 000 cas de coronavirus détectés, plus de 2000 morts. Épicentre de l'épidémie, la ville de New York, au point que Donald Trump a envisagé de mettre tout l'État en quarantaine, ainsi que deux territoires limitrophes. Mais le président américain, Loïc Loury, a finalement renoncé dans la soirée.
New York, mais aussi le New Jersey et une partie du Connecticut voisin. Donald Trump a lancé l'idée hier à la mi-journée, mettre tout simplement en quarantaine certains des États de la côte Est les plus touchés par le Covid-19. Vraiment, je crois que la plupart des gouverneurs apprécient. Je viens de parler avec Andrew Cuomo, certains aimeraient voir New York en quarantaine parce que c'est le point chaud. Problème, Andrew Cuomo, le gouverneur de New York, affirme ne pas avoir évoqué la question avec le président américain. Je ne sais même pas ce que cela veut dire, affirme-t-il visiblement exaspéré. Ce serait une déclaration de guerre lancée aux États, et ce ne serait pas juste New York, New Jersey, Connecticut. La semaine prochaine, ce sera la Louisiane, le Michigan. Je ne crois pas que le président souhaite commencer tous ses bras de fer avec tous ces États pour de nombreuses raisons. Donald Trump a donc fini par faire marche arrière, diffusant simplement un avis ferme pour dissuader les déplacements pour entrer ou sortir de ces États. Mais cet épisode illustre le décalage entre des élus locaux aux prises avec l'épidémie et un président borné et versatile. New York, l'épicentre de l'épidémie outre-Atlantique avec un tiers des décès au niveau national, n'avait franchement pas besoin de ce cafouillage. New York, Loïc Loury, France Inter.
Et en ce début de printemps, alors que nous sommes passés cette nuit à l'heure d'été, une heure de soleil, de sommeil en moins, c'est également le moment du pic pour les pollens dans le sud de la France, actuellement d'ici deux semaines au nord de la Loire. Avec lui, les allergies, mais en pleine crise du coronavirus. Difficile pour les personnes allergiques ou asthmatiques de distinguer les symptômes habituels de l'allergie de ceux du Covid-19. Illustration à Marseille, reportage Olivier Martoc.
Léonore, 18 ans, respecte à la lettre le confinement. Elle n'est pas sortie une seule fois de son domicile, c'est sa mère qui va faire les courses. Allergique au pollen, elle est pourtant inquiète depuis une semaine devant certains symptômes.
Des éternuements à répétition, j'ai le nez qui me coule et qui gratte, j'ai très mal à la gorge. Et j'ai des glaires. À la moindre petite chose inhabituelle, on a l'impression qu'on va tomber malade et qu'on va avoir le virus. C'est sûr que ça me fait un peu bizarre de cracher du sang. C'est en très petite quantité, mais c'est vrai que ça m'a fait bizarre.
La jeune fille peut être rassurée malgré ce qu'elle a lu sur Internet. Elle n'a pas les symptômes du Covid-19. Le docteur Isabelle Bossé est la présidente du syndicat des allergologues.
Fièvre et courbature, c'est vraiment les deux choses qui permettent de différencier les deux process ou allergiques ou Covid. Alors on peut avoir les deux, hein. On peut avoir une crise d'allergie et avoir en plus une infection virale surajoutée, mais c'est ce qui va faire la différence, je pense.
Face à l'inquiétude de nombreuses personnes allergiques, l'association Asthme et Allergies met en place un numéro vert la semaine. Il est facile à retenir, 0800 19 20 21. Marseille, Olivier Martoc, France Inter.
Et en ces temps de confinement, voilà que la télévision se refait une santé.
Et oui, elle marque des points très regardés à la maison et pas uniquement les vidéos à la demande ou le replay. La bonne vieille télé et ses programmes, depuis 30 ans, les audiences n'ont jamais été aussi bonnes, Corinne Pellissier.
C'est le meilleur score enregistré par l'émission depuis 2016. 6,5 millions de téléspectateurs ce vendredi sur TF1 pour Koh-Lanta. Depuis le début du confinement, le 16 mars, c'est l'allocution du président Macron suivie par 35 millions de Français.
Mes chers compatriotes, j'ai décidé de renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts au strict nécessaire.
Les audiences du Média Télé tous les jours battent Des records. Une heure de plus, quasiment, passée devant son poste de télévision, 4h48 en moyenne, du jamais vu depuis 30 ans.
Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal, voici les
57%
titres.
D'audience en plus pour le 20h de TF1, 78% pour celui de France 2. Les Français, en période de crise, sont à la recherche d'informations, de repères, mais aussi de divertissement, et les chaînes s'adaptent pour créer du lien. Cyril Lignac, tous les soirs en cuisine sur M6 et en vidéo avec des téléspectateurs.
Bonjour à tous. Comme vous, je respecte les règles sanitaires et je suis à la maison.
Ou tout simplement pour rassurer à travers des programmes pour toute la famille, une stratégie payante, y compris chez les 15-24 ans, qui boudaient le média depuis plusieurs vagues de mesures au profit de programmes en replay. Ils ont doublé leur temps de consommation, 1h47 en moyenne tous les jours.
Ah bien s'amuser.
Voilà, des jeunes qui regardent davantage la télé en plus des autres écrans, on peut se demander si c'est une bonne nouvelle.
Et peut-être que le mieux c'est encore d'écouter la radio et redécouvrir vos programmes favoris. C'était le journal d'Estelle Schmitt sur France Inter.